Bonjour à tous, il est midi ici à Paris et à N'Djamena.
Karine Bellicha.
À la une, la fin de la présence militaire française au Tchad. La dernière base a fermé hier. Une cérémonie officielle a eu lieu à N'Djamena ce matin où l'on retrouvera notre correspondant Victor Moria dès le début de ce journal. Dominique Pélicaud est-il impliqué dans deux affaires non résolues? Le violeur de Mazan a été extrait de sa cellule hier. Pour répondre aux questions de la juge Nathalie Turquet à Nanterre, Baptiste Coulon nous expliquera. Enfin, les usines polluantes mettent en place des systèmes de capture du CO2 pour échapper à la fermeture. Mais ces dispositifs sont-ils si efficaces que ça? Reportage à la fin de ce journal. Au Tchad, le président Déby a salué le départ définitif et complet des forces françaises stationnées dans le pays. Fin novembre, les autorités avaient mis fin à l'accord de coopération militaire avec Paris. Une cérémonie était organisée ce matin à N'Djamena pour acter ce retrait historique de la France après des décennies de présence au Tchad. On retrouve Victor Moria à N'Djamena. Victor, vous avez assisté au discours d'Idriss Déby sur la piste de l'aéroport de la base d'Adjikossé.
Oui, et d'emblée, le chef de l'État tchadien a salué un jour exceptionnel qui marque la fin effective de 125 ans de présence militaire française au Tchad. Cela fait suite, vous l'avez dit, à sa décision de rompre les accords de défense avec la France fin novembre. Une décision qui n'est pas une rupture des relations avec la France, a expliqué Mahamat Déby, qui précise que le Tchad reste ouvert au dialogue avec Paris. Signe de l'importance symbolique donnée par les autorités tchadiennes à l'événement du jour, tous les représentants de l'État étaient là, le commandement de l'armée bien sûr, mais aussi l'ensemble des présidents des institutions régaliennes comme le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême, étaient présents également les membres du Conseil national de transition dont le rôle s'achève dans quelques jours avec la nouvelle législature, mais aussi les anciens premiers ministres du pays, parmi eux Albert Pahimi Padaké dont le parti est arrivé deuxième aux élections législatives de décembre, mais aussi, et c'est une surprise pour de nombreux observateurs, le président des transformateurs, Succès Masra, applaudi à son arrivée par une partie des militaires, l'opposant qui revendiquait encore il y a peu la victoire à la présidentielle de mai 2024, est rentré au pays il y a quelques jours. Succès Masra a ensuite posé main dans la main aux côtés du président de la République devant les caméras. C'est donc une vision d'unité qui a été renvoyée ce matin par l'ensemble de la classe dirigeante et politique tchadienne. Albert Pahimi Padaké a par exemple déclaré qu'il n'y avait pas d'opposition sur les questions de souveraineté.
Victor Moria en direct de N'Djamena. La SADC, la communauté de l'Afrique australe, doit se réunir aujourd'hui pour évoquer la guerre en RDC, un sommet extraordinaire à Harare. Hier, l'ONU s'est dit très inquiète pour le Sud Kivu, évoquant des informations crédibles faisant état de l'avancée du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda vers Bukavu. À Goma, le calme est revenu, mais la situation humanitaire reste critique et Internet, l'eau courante et l'électricité sont toujours coupées. Demain, trois nouveaux otages israéliens seront libérés à Gaza. Le gouvernement israélien confirme avoir reçu cette liste. Le franco-israélien Ofer Calderon en ferait partie d'après le Hamas. Hier, l'échange otages contre prisonniers est finalement allé jusqu'à son terme. Des milliers de personnes en liesse ont accueilli les prisonniers libérés par Israël à Ramallah. Une soixantaine ont regagné la Cisjordanie occupée sur 110 Palestiniens libérés au total. Israël avait suspendu le processus dans la journée pour protester contre les conditions de la libération des otages. Plus tôt dans la journée, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais. En France, Dominique Pélicaud est de nouveau dans le viseur de la justice avec une question. Est-il aussi un meurtrier? L'ancien mari de Gisèle Pélicaud, condamné à 20 ans de réclusion en décembre dernier pour avoir violé et fait violer sa femme par des dizaines d'inconnus, a été entendu hier par un juge. Baptiste Coulon du service France des RFI nous a rejoint. Bonjour Baptiste.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
La justice s'intéresse à plusieurs affaires dans lesquelles Dominique Pélicaud serait potentiellement impliqué.
Oui, ce sont en fait deux affaires de violences sexuelles qui intéressent les enquêteurs. Un meurtre avec viol en 1991 et une tentative de viol en 1999. Les victimes sont deux femmes, deux agentes immobilières agressées par un homme pendant une visite d'appartement. Dominique Pélicaud est mis en examen dans ces deux dossiers.
Quels sont les éléments qui permettent de lier Dominique Pélicaud à ces deux affaires?
Alors dans le premier dossier, le meurtre avec viol en 1991. D'abord, il faut savoir que c'est une affaire que tentent de résoudre les enquêteurs depuis plus de 30 ans, avec son lot de fausses pistes et de multiples suspects. C'est à partir de 2020 en fait fait que les enquêteurs explorent la piste Dominique Pellicot. Quand l'homme est arrêté dans un supermarché alors qu'il filmait sous les jupes de plusieurs femmes, téléphone et ordinateur sont inspectés par la police. Il découvre alors les vidéos de Gisèle Pellicot violée par plusieurs hommes. Son ADN est prélevé. Il matche avec celui jusqu'ici inconnu, découvert sur une scène de crime semblable à celle de 1991.
Et dans la seconde affaire ?
Dans la tentative de viol en 1999, cette fois, Dominique Pellicot est bel et bien confondu par son ADN et le mode opératoire est similaire à celui utilisé dans la précédente affaire. Une visite d'appartement sous un faux nom et un mouchoir imbibé d'éther plaqué sur le visage des victimes pour les endormir.
Dominique Pellicot reconnaît-il son implication dans ces deux affaires ?
Alors, il nie le meurtre avec viol en 1991. En revanche, il reconnaît son implication dans la tentative de viol en 1999 tout en la minimisant. Il disait quand même « c'est bien moi », interrogé à ce sujet lors du procès des viols de Mazan. Dominique Pellicot, on le rappelle, n'a pas fait appel du verdict de ce procès.
Baptiste Coulon du service France d'RFI. Le reportage en France à présent nous emmène près de la ville de Lyon. Il y a 2 ans, à la COP, les pays du monde entier se sont engagés à se passer progressivement des énergies fossiles qui sont les grandes responsables du réchauffement climatique. Sauf si les cheminées des usines polluantes sont équipées de systèmes de capture de CO2, des technologies qui intéressent les industriels, mais qui sont loin d'être des solutions miracles. Elles coûtent cher et elles sont très critiquées par les ONG. Reportage dans un laboratoire qui développe ces systèmes de capture de carbone avec Jeanne Richard.
Dans un immense hangar, Patrice Font, blouse blanche sur les épaules et lunettes de protection sur le nez, se tient devant une série de machines parcourues de gros tubes et de tuyaux de métal. C'est en modèle réduit un système qui pourrait équiper les futures centrales à charbon ou les incinérateurs de déchets pour réduire leurs émissions de CO2 dans l'atmosphère, explique le chargé de projet à l'IFP Énergie Nouvelle.
Il y a énormément de nouvelles centrales qui sont encore construites. Et donc l'idée, c'est de proposer une technologie où on peut continuer à utiliser du charbon, produire de la chaleur, de l'électricité. Par contre, le CO2, il n'est plus rejeté dans l'atmosphère, on le capte.
Concrètement, la combustion du charbon est optimisée pour qu'en sortie de cheminée d'usine, la fumée contienne plus de 95% de CO2. Il est alors possible de transporter ce gaz pour le stocker à plus de 800 mètres sous la terre. Raphaël Huyg, responsable du programme captage et stockage de CO2 à l'IFP Énergie Nouvelle.
Pour l'Europe, en 2050, c'est 450 millions de tonnes par an de CO2 qui devront être captées, stockées et ou utilisées si l'on veut atteindre cette neutralité carbone.
Soit presque les 3/4 des émissions de la France sur une année. Mais derrière cette belle promesse, peu de projets voient le jour, admet-il.
Cette technologie aujourd'hui a un coût. Et donc les industriels ont à passer ce coût. Et donc il faut supporter cette filière pour que cette filière puisse avoir une viabilité économique.
Et pour l'instant, le captage et le stockage de carbone est surtout poussé et financé par les industries pétrogazières, ajoute Aurélie Brunstein du réseau Action Climat qui regroupe plusieurs ONG.
Ça permet de garantir à cette industrie le business as usual et de pouvoir se teinter de vert. Mais c'est des technologies qui n'ont pas encore totalement fait leur preuve de leur efficacité. Et avec ce risque que les financements publics dédiés à la transition écologique viennent financer ces technologies au lieu de financer d'autres leviers de décarbonation. Et il faut aussi tenir compte du fait que le captage de carbone ne va venir régler que le problème du carbone et ne vient pas régler tous les autres problèmes environnementaux liés aux énergies fossiles, que ce soit dans le secteur de l'énergie comme dans le secteur de l'industrie.
Les scientifiques du GIEC estiment tout de même que le captage et le stockage de carbone fait partie des solutions pour décarboner certains secteurs industriels très polluants comme la cimenterie, la sidérurgie ou l'industrie chimique, mais uniquement lorsque toutes les autres solutions ont déjà été mises en œuvre.
C'était le reportage de Jeanne Richard, près de Lyon. À Washington, l'enquête sur la collision d'un avion de ligne et d'un hélicoptère va pouvoir avancer. Les 2 boîtes noires de l'appareil d'American Airlines ont été retrouvées. L'accident a fait 67 morts. Selon le New York Times, la tour de contrôle était en sous-effectif mercredi soir. Un seul contrôleur au lieu de 2 assurait le trafic à ce moment-là. L'agence des transports promet un premier rapport sur les causes de l'accident dans 30 jours. Enfin, un mot de rugby pour refermer ce journal. Les Français entament leur tournoi des 6 nations ce soir face au Pays de Galles. La tournée d'automne s'est bien passée avec 3 victoires contre le Japon et surtout contre la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Match ce soir à 20h15, temps universel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute des RFI.